Bonjour tout le monde. Je suis certain qu'il y aura d'autres qui arrivent dans un moment, mais on commence quand même parce que c'est l'heure, même après l'heure. Alors, si tout le monde a une feuille jaune, beige, on va suivre un peu la direction de ces notes avec l'idée que ce matin, on veut entrer avec une pensée vraiment d'adoration et ensuite par un cantique et on va voir le texte qui était prévu pour aujourd'hui. Alors, c'est la parole du Seigneur. Donc, on va écouter avec attention. Okay? Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent. Sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi. Vraiment. Et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Voilà notre texte pour ce matin pour commencer. C'est Ésaïe 55, les versets 1 à 3. Avec nos pensées vraiment tournées vers le Seigneur, chantons le numéro 5. Numéro 5. Chantons.
Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnons chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le nom suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce l'instant qui passe c'est à nous rapprocher de toi. Et à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi.
Voilà notre prière pour ce matin, bien exprimée dans ces cantiques. C'est difficile de le dire mieux. Merci Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, y compris la possibilité d'être présent ce matin. On voit des visages nouveaux, comme les polis. Bienvenue. Laureen est quelque part. Oui, tout derrière là. Laureen est là. Il y a aussi Alessa et Taylor, nos petits-enfants. qui ne sont pas si petits que cela derrière. Donc, tous les autres frères et sœurs qui sont venus ensemble ce matin, parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Et notre texte est dans Actes chapitre 8. C'est plutôt mieux de regarder dans votre Bible, mais sinon, il y a le texte derrière la feuille que j'ai été donné, si tout le monde a la feuille. Dans ce texte, il y a deux personnages principaux, oui, et aussi un texte qui est important. Donc, si on peut simplement lire le texte, si on peut demander, je ne sais pas, on commence ici. Michel, tu peux commencer jusqu'à le verset 31. Bien. David, tu peux lire à partir de 32 jusqu'à 35.
Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tôt, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. Le nul dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Alors Florian, tu peux lire 36 à 39.
Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent deux autres. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le nuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et le nuque descendirent, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa le nuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le nuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivit sa route.
Merci. C'est un texte qui est assez bien connu, n'est-ce pas? Dans nos groupes de maison, on vient d'étudier ce texte avec une discussion concernant quelques éléments. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau, mais quand même, c'est bien de voir cela dans son contexte. J'ai vu un passage sur le tableau derrière, quand je crois que c'est Justin qui a enseigné les jeunes garçons. Il a dit, si on prend un passage en dehors de contexte, c'est un prétexte. Donc, nous voulons garder le contexte de ce chapitre. Et on voit bien que nous sommes dans la suite ou le chemin de l'histoire de l'Église du premier siècle, mais c'est un peu étonnant, parce que, bien sûr, Jésus a dit, il faut aller partout, Judée, Samarie, jusqu'à la fin du monde, mais ils sont restés à Jérusalem. Ils ne voulaient pas partir, parce que c'était bien ensemble, toute cette communion de milliers de frères et sœurs maintenant. Donc, il fallait, comme le tour de Babel presque, que Dieu intervienne, et il a amené ou laissé venir la persécution, et la suite de cela était que l'Église était dispersée. Et ils ont commencé de faire ce que Jésus a demandé. Maintenant, ils sont allés, bien sûr, Judée, on peut dire Jérusalem. Mais Samarie, c'est un choix un peu étonnant. Parce que bien sûr, les Samaritains n'est pas bien aimé par les Juifs. Et bien sûr, Philippe est un Juif. Mais à ce moment-ci, nous avons un contraste, pas contraste, un parallèle avec Jésus lui-même. Parce que quand il est venu vers Jérusalem, au lieu de passer autour, comme la plupart des Juifs, il est passé par la Samarie. Et la réception était mauvaise. Jusqu'au point qu'il y avait deux des disciples qui ont demandé, « Seigneur, est-ce qu'il faut appeler du feu du ciel pour détruire ces villes de Samarie ?» Et bien sûr, la réponse de Jésus était autrement. Ils étaient aussi dans le plan de Dieu. Et on voit que ce plan maintenant est en train d'être accompli. Parce que maintenant, Philippe, qui est un évangéliste, il est appelé cela par nom deux fois, nous avons Philippe qui est allé vers ces personnes qui sont haïes, qui a eu beaucoup de préjugés contre eux, jusqu'au point que les grands pharisiens, ils ont prié, « Merci Seigneur, que je suis un homme et pas une femme. Merci Seigneur, que je suis un homme et pas un chien. Et merci Seigneur, que je suis un Israélite au lieu d'être un Samaritain. » Donc, ce n'est pas vraiment un chant, on peut dire, réceptif en Samarie. Mais par la suite, on voit tout de suite dans le texte que Philippe était bien reçu parce que le message était un bon message. Évangéliste, évangile, c'est-à-dire il a prêché une bonne nouvelle pour les Samaritains. Donc, il y a ceux qui ont cru et ceux qui étaient baptisés. Donc, on a maintenant une campagne qui se passe, qui est très, très réussie. Mais pendant cette campagne, beaucoup de réponses, ceux qui sont devenus chrétiens, dans un champ un peu difficile, un ange est venu vers Philippe et a dit, il faut aller dans un endroit désert ou isolé, sur le chemin qui va vers Gaza. Maintenant, on voit d'abord ici, l'attitude de Philippe. Il était obéissant. Même si peut-être la situation n'est pas très positive pour quitter une bonne campagne d'évangélisation et d'aller sans savoir pourquoi dans un lieu aride, désert. Mais il a fait. Mais il ne savait pas pourquoi. Donc il est là. Et jusqu'au point qu'il y a ces chars qui passent avec quelqu'un qui était en train de lire un rouleau, etc., le Saint-Esprit, on change d'un ange, un messager, il est venu et maintenant on voit dans chapitre 6 déjà que Philippe était rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire quelqu'un à l'écoute du Saint-Esprit, quelqu'un pour qui le Saint-Esprit a dominé sa vie. Donc, une personne comme cela, quand le Saint-Esprit parle, il a obéi. Et c'est un étranger, hein? Parce que, peut-être je peux voir tout de suite, il était un Éthiopien, ce monsieur dans le char. Et le mot Éthiopien veut dire visage brûlé, qui probablement veut dire un noir qui est venu d'Éthiopie. Mais Philippe n'avait pas de préjugés en obéissant le Saint-Esprit. Donc, il est entré, il est venu, parce que le Saint-Esprit a dit « avance ». Et j'aime bien ce mot, « avance », »,« avancez », »,« avancez ensemble ». Mais il a avancé avec le Saint-Esprit, et il s'est joint avec ce monsieur, qui en fait, on peut dire, son excellence, parce que c'était quelqu'un vraiment, un officier, un fonctionnaire de haut rang, dans son pays, Éthiopie. Et par la suite, il était en train de lire ses rouleaux. Donc, on entre dans ces personnages. On a Philippe, le personnage, qui était déjà qualifié dans chapitre 6, un homme qui était plein de l'esprit, un homme avec une bonne réputation, et aussi un homme de sagesse. Il dit cela de Philippe. Maintenant, ce monsieur, cet eunuque, parce que c'est des Éthiopiens eunuques, il était là en revenant de Jérusalem. Et ça dit beaucoup de choses déjà. D'abord, s'il est venu de loin pour aller à Jérusalem pour adorer le Seigneur, le Dieu qu'il connaissait, c'est déjà un exemple, une preuve d'une grande, grande foi. Je ne sais pas si nous aurons eu, nous, dans une telle situation, de telle foi que cet eunuque. Mais il est revenu. Mais on voit aussi son rang, parce qu'il avait entre ses mains un rouleau. Probablement, c'était vraiment exceptionnel d'avoir physiquement un rouleau de la Bible à l'époque. Je ne sais pas si c'était tout l'Ancien Testament. Probablement pas. Peut-être que c'est seulement le rouleau d'Ésaïe qu'il était en train de lire. Et déjà, cela prend pas mal de place. Si vous avez regardé des photos de rouleau de la mer morte, on voit que le rouleau d'Ésaïe était assez ample en quantité. Mais il était en train de lire un passage, 53. Et en lisant ce passage, il y avait quelque chose un peu contre, peut-être ce qu'il a déjà entendu. Croyant, oui. Prosélyte, je ne crois pas. Et je vais dire dans un moment pourquoi. Mais plutôt, ce qu'on a dit, celui qui a craigné Dieu, un craignant de Dieu. Et avec cette sorte de foi, il a acheté un rouleau d'Ésaïe au moins. Mais s'il était dans un milieu juif, quelle était sa perspective de cet personnage dans le texte? En général, les juifs attendaient un roi, quelqu'un sur le trône de David, qui devrait repousser les oppresseurs. Et pour cela, il attendait quelqu'un pour les livrer de l'oppression des Romains. Mais ici, nous avons, dans ce texte, on dit le serviteur souffrant. C'est dans une série de textes dans Ésaïe, au milieu de ce serviteur, et il est proposé comme quelqu'un qui souffre, qui est juste le contraire de ce qui était entendu par les Juifs. Donc, il n'a pas bien compris. Et quand Philippe a posé la question, « Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Il a dit, « Mais comment je pourrais le faire? » Sauf s'il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. Vous voyez bien, n'est-ce pas, l'attitude de cet croyant, très humble, devant son besoin de savoir plus. Et il était tout à fait ouvert pour que d'autres personnes l'aident, dans ce cas, Philippe. Donc, à partir de ce texte, nous voyons que celui qui était là comme Éthiopien eunuque était en train de recevoir une bonne nouvelle. Parce qu'il dit dans le texte qu'à partir de ce texte, Philippe a commencé d'enseigner l'évangile ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ils continuent leur chemin. Mais parlons au moment de cet Éthiopien. C'est un peu bizarre de le trouver comme tel, qui vient à Jérusalem et après il repart chez lui. Mais d'où venait cette foi? Comment c'est possible qu'un personnage comme lui aurait la foi dans ce pays lointain? Il y a beaucoup d'histoires de cela, on ne va pas dans tous les détails, mais il semble bien qu'il y avait une sorte d'immigration des Juifs dans la région de Nubie ou Cush, d'autres noms pour la même région. Plutôt la partie du nord d'Afrique, mais on peut dire toujours la partie noire d'Afrique. Donc il y avait cette région de Cush ou de Nubie, d'après les textes dans l'Ancien Testament, c'est toujours le même, c'est Éthiopie. Et dans cette région, il semblait qu'il y avait une immigration des Juifs, en époque même peut-être des derniers rois, pour échapper à la persécution de ces rois méchants. Et là, il semble qu'ils ont commencé d'installer la foi juive. peut-être un peu lié avec le Sheba, Sheba, le règne d'Éthiopie, qui est venu voir Salomon, qui était tellement impressionné. Et quand elle est rentrée, je me demande quelle histoire est-ce qu'elle a apporté dans cette même région d'Éthiopie. D'où vient cet eunuque? Donc, il y a ce personnage qui avait quelque part, on ne sait pas exactement comment, la foi installée concernant le Dieu des Juifs. Parce qu'il savait, on peut aller à Jérusalem pour être plus près de ce Dieu des Juifs. Mais attention, quand il est allé à Jérusalem, il y a le temple et il y a le cours pour les femmes et pour les étrangers. Il y a un autre cours pour les hommes juifs et après cela, le temple comme tel pour les prêtres. Et lui, il n'avait pas le droit d'entrer plus loin que le cours des femmes. Et la raison pour cela, c'est parce que sa condition. Qui est-ce, quelle est son origine, mais sa condition. Il était un eunuque. Et ça dit beaucoup de choses concernant son état devant les textes bibliques de l'Ancien Testament. Parce qu'on voit dans Deutéronome ce passage qui parle des eunuques pour les Juifs. C'est dans chapitre 23, verset 2, il dit ceci dans le Louis II, 21, « L'homme dont les testicules ont été écrasés, ou l'urètre coupé, n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. » Comme eunuque, il était exclu de l'assemblée de l'Éternel. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour quelqu'un comme lui. Mais peut-être il était dans Ésaïe, n'est-ce pas? Le texte 53. S'il avait un rouleau d'Ésaïe, et si Philippe a continué de développer le texte, parce que vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de chapitre et de verset. C'était toute une histoire continue. Donc, peut-être ils ont continué dans Ésaïe jusqu'au chapitre 56, parce qu'il dit ceci. C'est verset, je crois, j'ai donné cela, oui, 56, 3 à 5. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera certainement de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, je ne suis qu'un arbre sec. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît, et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudra mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Quelle promesse pour un eunuque comme lui. Il ne sait pas, il ne savait pas exactement qui est ce texte de chapitre 53. Mais s'ils ont regardé maintenant chapitre 56, on arrive à une situation qui est liée avec d'autres prophéties. Dans Sophanie 3, 10, il dit, « Venu de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mais ô adorateur, ceux que j'ai dispersés m'apporteront des offrandes. » C'est une prophétie qu'il y aura des gens d'Éthiopie qui viendront pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Et ensuite, dans Psaume 68, 32, « Des grands les grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. Donc l'histoire de cette unique Éthiopie et Philippe, c'est un accomplissement de ces prophéties de l'Ancien Testament. Mais maintenant, dedans, il y a une bonne nouvelle. Nous pouvons lire le texte en disant, quand Philippe a expliqué la bonne nouvelle, peut-être avec le texte de 53, 56, c'est clair qu'il a dit quelque chose, comment saisir cette bonne nouvelle. Nous n'avons pas tous les paroles de Philippe. C'est comme dans Actes chapitre 2. Nous entendons ce que Pierre a dit à cette grande foule. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et avec beaucoup d'autres paroles, le texte dit, il a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc le pardon, mais la libération du passé sont impliqués dans ces autres paroles que Pierre dit. Et c'est le cas ici parce qu'il devrait y avoir quelque chose dans l'enseignement de Philippe qui a amené l'eunuque de poser la question. Voilà de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a qui empêche que je sois baptisé? Donc, dans l'enseignement, quelque chose est arrivé pour montrer à cet eunuque ma condition peut changer. Sa condition était malheureuse. Peut-être pas de son choix, on ne sait pas. Il y a ceux qui choisissent d'être, disons, célibataires à cause de Jésus, pour le nom de Jésus. Mais il y a d'autres qui sont eunuques, dans ce cas, sans leur choix. Mais malgré cela, lui, il vivait sa condition. Il était dans un sens rejeté, pas forcément dans son pays, on ne sait pas, parce qu'il était un fonctionnaire assez important, mais au moins dans ses pensées de foi concernant son rapprochement à Dieu. Il a fait l'effort pour aller jusqu'à le temple, mais il n'avait pas le droit d'aller dans la partie antérieure. Mais maintenant, Philippe lui donne une bonne nouvelle. Ça ne compte plus. Toute cette condition, on peut dire handicapée, maintenant a été changée par le fait que votre nom est écrit dans le livre de vie. Et avec cela, on commence d'arriver vers la fin de cette histoire. Vous voyez, cette histoire n'est pas unique par plusieurs façons. Dans l'Ancien Testament, il y avait d'autres personnes en dehors du peuple de Dieu, mais qui étaient accueillies, même jusqu'au point de faire partie de la ligne royale, comme Ruth. Ruth n'est pas juive, mais quand même, elle était accueillie dans la famille de Dieu, jusqu'au point qu'elle est devenue un ancêtre de Jésus, on peut dire de David, et toute la ligne royale. Ou on peut penser même après de Rahab. Rahab, c'est un prostitué. Mais un prostitué qui était dans le plan de Dieu pour son salut au sein de son peuple. On a l'immigrante Ruth. On a la prostituée, Rahab. On a aussi plus tard dans les prophètes, Osée, on a Gomer. Vous connaissez Gomer? Qui est Gomer? Je crois en français, on peut dire, elle était adultrice. Elle a commis adultère. Adultrice, on dit?
Adultère.
Voilà, ok, j'ai cherché le mot. Adultère. Plusieurs fois, en série. Et qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Dieu a envoyé son mari d'aller le chercher parce qu'elle est tombée même dans l'esclavage à cause de ses actions. Et il y avait son mari, Osée, qui l'a racheté. Malgré cette histoire, comme un adultère répété. Où on peut aller même plus loin que cela. Il y a un homme qui s'appelle Mephibosheth. Okay? C'est facile, n'est-ce pas? Mephibosheth. Donc, il était né dans une mauvaise tribu. Il était handicapé avec une jambe qui était mauvaise. Il était contre David. Mais à cause de l'amour de David pour Jonathan, il a accepté ce Mephibosheth dans sa maison, à sa table. Il a dit, vous pouvez manger ici à jamais. Rejeté, divisé par une animosité dans le passé, handicapé, mais accepté. Il y a une autre personne, je suis certain que vous connaissez cette personne, Obed-Edom. Obed-Edom. Vous connaissez cette personne, n'est-ce pas? Non? Donc, je veux dire, il faut aller à Google pour trouver un peu de renseignements parce que je ne raconte pas son histoire ce matin. Ça, c'est une autre histoire. Mais, on peut dire de lui, c'était un Philistin. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé l'arche de Dieu dans sa maison, dans son salon, quelques mois. Et le texte dit qu'il était béni par Dieu grâce à cette action de recevoir quelque chose de sacré de Dieu. Donc, en voyant cette histoire, nous voyons tout au long de l'histoire sacrée que Dieu accepte des personnes que nous serons probablement en train de rejeter. Des immigrants, des prostituées. On peut prendre quelqu'un comme Gomer, un adultère répété, même un esclave par la suite. Et Obed-Edom qui était un Philistin. Mais qui était rapproché à Dieu. Dieu a accepté cette personne. Mais le message pour nous aujourd'hui, c'est ceci. Est-ce que nous sommes préparés d'accepter le même type de personne comme l'eunuque, comme l'homosexuel, comme deux hommes ou deux femmes qui habitent ensemble, comme le transgendre, on dit? Transgendre. S'il entre ici dans la salle, dit, est-ce que nous avons la bienvenue ici? Qu'est-ce que nous dirons? Et ça, c'est le message, je crois. Dieu a pris cet eunuque qui n'avait pas le droit d'être dans sa présence par le système qui était en place pour les Juifs. Et lui, il ne pouvait pas être un prosélyte. C'est impossible, c'est-à-dire d'avoir un prosélyte, c'est-à-dire de circoncis un non-juif pour qu'il devienne un juif. Impossible pour les eunuques. Et il ne peut pas entrer dans le lieu plus saint du temple. Mais Dieu l'a accepté avec une bonne nouvelle. Et ces gens habitent autour de nous. Mais la question qui n'est pas vraiment posée très souvent pour nous, mais celui qui est en train de commettre l'adultère, même le prostitué, ou les immigrés qui arrivent chez nous, et même les homosexuels, et même quelqu'un comme cet eunuque, est-ce que nous sommes, dans notre esprit, préparés de les accepter? Comme Dieu les accepte. Donc, c'est une bonne nouvelle d'être accueilli par ces gens-là. Et d'habitude, ils sont vraiment déroutés dans la vie, repoussés. Mais s'ils peuvent trouver la bienvenue chez nous, combien ça c'est important dans le plan de Dieu. Alors, cette histoire termine par l'expression que l'eunuque a continué son chemin, il a poursuivi son chemin. Comment?
Avec joie.
Dans la joie, avec la joie. Et si on considère d'où il est venu, sa condition et son ignorance, et qu'il est arrivé, je ne sais pas comment, combien de temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je ne sais pas. Mais il est arrivé de savoir tout cela peut changer. Et il va être accepté dans la maison éternelle de Dieu. Donc l'histoire est une très très belle histoire. Si on peut imaginer tous les aspects autour et combien ça tombe bien dans cette grande mission que nous avons. On a cela pour hier soir et pour ce matin, n'est-ce pas? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et avec cela, nous sommes choisis. Nous sommes des Philippe. Nous sommes des osés qui acceptent l'adultère dans sa maison, comme sa femme. Nous sommes un Boaz qui accepte l'immigrant. Nous sommes comme le peuple d'Israël qui était prêt d'accepter un prostitué parmi eux et qui est devenu ancêtre de notre Sauveur Jésus. Donc, cette histoire continue avec d'autres dans les actes, mais sa place est très, très importante. Parce que nous avons ici quelque chose en détail de comment le ministère de Philippe, d'abord dans les lignes plus grandes en Samarie, a eu un moment dans l'histoire, tout seul, quelques minutes presque, 2-3 heures, et tout cela est fixé avec le passage, Ésaïe 53, l'expression que Philippe a rempli son rôle d'enseigner la bonne nouvelle, et que la suite, après il a été baptisé, il a continué son chemin dans la joie. Question? Remarque? On a une longue pause.
Est-ce qu'il y a une repentance là? Est-ce qu'on a besoin d'une repentance quand même? S'il y a qui accepte, on accepte, bien sûr, qu'on accepte. S'il n'y a pas de repentance, qu'est-ce qui se passe?
Oui. Dans cette histoire, je ne sais pas. Le texte ne dit pas. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible?
Non,
moi non plus. Le texte dit qu'il faut être repenti. Donc je crois bien. C'était dans ce que Philippe a enseigné. Repenti de quoi? Je ne sais pas. Quel était le problème de péché pour l'eunuque? Mais c'est clair qu'il était pécheur. Autrement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, comme pécheur qui a reçu cette bonne nouvelle, bien sûr, il y a derrière le chemin qu'il a poursuivi qui était différent qu'avant. Physiquement, on dit son chemin, mais spirituellement, c'est clair qu'il a changé son chemin.